c'est parti pour match.
Salut mesdames, messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 21 du balado Bon Match. J'espère que vous allez bien. Salut Danny.
Salut Martin.
Bon Match entre maintenant, Danny, en mode série. Puisque la saison régulière étant derrière nous, on regarde cette longue marche vers la Coupe Stanley avec les éléments qui ont marqué les premières semaines de série. Je te demande comme ça, Danny, à brûle pour point, quel est l'élément marquant le plus important pour toi dans ces deux premiers matchs de série, dans la plupart des séries qu'on suit actuellement?
Ben écoute, j'ai trouvé dès le départ qu'il y avait eu énormément de contributions des joueurs de soutien. Dans les deux premiers matchs, Martin, ça m'a vraiment impressionné. Sur les 39 buts, il y en a 35 qui ont été marqués par des attaquants. Et des 35 buts, 15 ont été marqués par des joueurs qui appartenaient au troisième et quatrième trio. Donc, d'entrée de jeu, on voit que l'aspect physique, les matchs sont assez robustes. Il y a beaucoup de mises en échec. Et les joueurs de soutien se soulignent vraiment de façon significative. En tout cas, la première semaine, on peut dire, là, c'était assez évident. Donc, pour moi, ça, c'était premier constat, si tu veux. Et ça, c'était, je sais pas de ton côté, si tu as remarqué le niveau de robustesse, là, mais ça m'a fait penser aux Canadiens en même temps, puis à certains joueurs du Canadien.
Ben, écoute, ce qui va être intéressant, c'est qu'un petit peu plus tard, on va essayer d'analyser ce qu'on voit, puis peut-être le mettre un petit peu en application chez le Canadien qui tente à devenir une bonne équipe de série. Là. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, ce que je remarque, oui, le hockey est robuste en série, mais il y a une chose qui me frappe, c'est que les équipes qui ont pris un peu plus cette recette-là du hockey physique l'appliquent en série. Et ça marche. Puis pour moi, la première chose qui me saute aux yeux, Danny, les Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride, depuis à peu près un an et trois quarts, c'est nous sommes comme ça, nous nous assumons et c'est comme ça qu'on joue. On joue du hockey physique, intense. Il y a une guerre, littéralement, entre ces deux équipes de la Floride. Je vais développer, puis je vais te laisser aller sur le Lightning un petit peu, mais moi, ce que je retiens des Panthers, c'est comme tu dis, profondeur, l'émergence de Carter Verhaeghe, qui est vraiment un joueur extraordinaire. Tu sais, quand tu dis là, avoir une belle chance de ramasser, de découvrir un joueur comme ça, dont maintenant le nom est dans la même phrase que le mieux et sa kick pour les buts victorieux en prolongation en série. La recette des Panthers est bonne, c'est la leur, Danny, puis il se colle là-dessus.
Ben, tu sais, c'est drôle, hein, parce que Verhaeghe, c'est quand même un joueur, c'est pas un inconnu, là, mais il fait pas partie de l'élite de la Ligue nationale, non. T'as raison. Mais tu te souviens, lors de notre dernier voyage, notre dernier passage en Floride, j'ai eu l'occasion de parler avec Sylvain Lefebvre, puis je lui parlais de ma préoccupation du jeu à 5 contre 5, puis à quel point je trouvais que c'était important de se servir de ça dans l'évaluation des joueurs. Puis en fait, je voulais un peu savoir ce qu'il en pensait. Oui. Puis il me dit, écoute, Danny, oui, c'est un élément que nous, on regarde énormément, puis parce que nos joueurs vedettes sont des joueurs qui sont très fiables à 5 contre 5. Puis c'est pour ça que ça a pris un certain temps à Reinhardt de trouver sa place chez nous, parce qu'il refusait d'embarquer dans ce système-là. Il était un peu réticent. C'était difficile de changer ses habitudes.
Parce que lui pensait, Danny, que de faire des compromis un peu, ça l'empêchait de marquer des buts, visiblement.
Ben, en fait, ce qu'il disait, c'est que lui, c'est plutôt l'inverse. En fait, il avait l'impression que même s'il faisait des compromis, c'était pas grave. Parce qu'il produisait en avantage numérique. Et que il y avait une façon, lui, de jouer en avantage numérique et à 5 contre 5. Mais Barkov, c'était pas sa façon de penser.
Non.
Alors, tant que Reinhardt n'a pas été à niveau avec Barkov, ça fonctionnait pas. Et c'est là où il m'a parlé de Verhaeghe. C'est là où il m'a dit, ça, c'est notre meilleur joueur à 5 contre 5. C'est grâce à lui qu'on est capable d'avoir deux trios très fiables, parce que lui, il n'en fait pas de compromis, pas de demi-mesure. Puis c'est notre joueur qui ramasse le plus de gros buts pour ça. Parce qu'il joue de la bonne façon. Alors, que tu soulèves cet élément-là, ça vient un petit peu, en fait, corroborer ce que Sylvain Lefebvre m'avait partagé un peu plus tôt cette année. C'est vraiment intéressant parce que moi, je suis convaincu, Martin, que les buts marqués de la bonne façon en saison, permettent à des joueurs de continuer à produire en série. Puis c'est plus difficile d'avoir ces chances-là en série parce que on vient de le dire, là, il y a moins d'espace, puis il y a moins de, t'as moins de temps pour agir, puis l'arbitre laisse plus de place aux écarts de conduite, donc ça rend le travail encore plus difficile pour les joueurs.
Puis ça rend aussi les Panthers efficaces parce que quand l'arbitre laisse du lousse en bon québécois, ça favorise une équipe comme les Panthers de la Floride. Et dans cette série-là, Danny, tu te souviens, il y a une couple de semaines, lorsque nous sommes allés à Tampa Bay et que j'ai eu le plaisir d'avoir le vestiaire seul avec André Vasilevski. Vasilevski, oui. Dans un marché comme Toronto, à faire la déclaration qu'il m'avait fait, aurait soulevé beaucoup de vagues. Mais il a juste soulevé le grimace de la part de son entraîneur Cooper quand il a dit « Je suis pas le même gardien, puis on n'est pas la même équipe. J'ai pas la même équipe devant moi. Mm-hmm. » Je pense qu'il est redevenu le même gardien. Parce que dans cette série-là, jusqu'à maintenant, il est aussi bon que Bobrovsky, mais on dirait que ça se passe devant lui. Sans Sergachev, tu sais, le Lightning, là, ça reste une très bonne équipe. Ils ont de l'expérience en série. Ils sont capables. L'autre soir, ils ont poussé les Panthers jusqu'à leur dernier retranchement. Ils sont capables de faire ça. Mais on dirait que le petit plus que les Panthers sont en mesure de donner, jusqu'à maintenant, le Lightning ne peut pas vraiment l'offrir.
Moi, j'ai trouvé que au niveau de... Écoute, c'est une équipe qui s'est gagnée, là, le Lightning. Là.
C'est sûr.
C'est sûr qu'il n'y a pas une si grande différence que ça dans la... Si tu veux, dans la façon de jouer, ils jouent de la bonne façon.
Oui.
Mais il reste qu'ils n'ont pas les effectifs pour égaler la profondeur.
C'est ça.
De l'autre côté. Fait, parce que la Floride, là, c'est sûr qu'ils sont un petit peu moins bons à la défense, mm-hmm. mais ils ont 6 défenseurs. Ils sont un petit peu, on va dire comme ça, un petit peu moins bons devant le filet, mais ils sont très bons.
Ben oui.
Mais en attaque, ils ont vraiment beaucoup plus 3 trios, 4 trios que le Lightning. Puis ça s'est fait sentir, Martin, au niveau justement du jeu à forces égales cette année.
Absolument.
Entre les deux équipes, là, la Floride, c'est une des bonnes équipes défensives, sinon la meilleure à 5 contre 5. Et c'est pas le... Tu sais, je regardais le différentiel. C'est rare que ça arrive, mais le Lightning, à forces égales, avait un différentiel négatif. Peux-tu croire ça?
Ben,
écoute, c'est pas cette équipe-là.
Non, puis, tu sais, Danny, je regardais un gars comme Iceymont avec le Lightning, puis on va changer de série dans quelques instants, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel comme étant un bon joueur soutien chez le Lightning de Tampa Bay, mais c'est loin d'être encore un gars comme Lindell ou encore Verhaeghe. Il est pas encore à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que chez lui, il y a un potentiel. Le Lightning, c'est pas une vieille équipe quand on regarde ça. Ils ont un capitaine assez avancé en âge, ils ont un défenseur numéro 1 qui commence à avancer en âge, mais pour le reste, c'est pas une vieille équipe, Danny. Alors, tu sais, si le Lightning passait pas à travers les Panthers, c'est peut-être pas déshonorant, puis on lance pas la serviette à Tampa Bay pour autant, du moins, je pense pas, là.
Ben non. C'est sûr que, écoute, il y a encore un noyau extrêmement intéressant, puis c'est des joueurs vedettes dans la Ligue nationale. Il y en a qui sont pas mal moins avancés que le Lightning, puis écoute,
c'est
leur
sûr.
Gardien, c'est pas un gardien fini, là.
Non, loin
écoute,
de là.
C'est un gardien vedette dans la Ligue nationale, probablement le meilleur, fait que lui... Écoute, moi, je trouve ça... Je trouve qu'à ce point-ci, là, c'est juste l'ordre des choses. La Floride a une excellente équipe. Ils ont été dominants toute l'année, puis ils continuent de l'être.
Danny, écoute, je veux m'attarder sur deux joueurs, puis ça va nous faire glisser, évidemment, sur leurs séries respectives. Je pense qu'actuellement, Austin Matthews et Connor McDavid... appliquent la même recette depuis le début des séries, dans leurs séries respectives, pour leurs clubs respectifs, qui ont appliqué en saison régulière. Peut-être la différence, c'est que dans les deux cas, je trouve qu'on commence à placer autour d'eux des joueurs complémentaires qui les mettent un peu plus en évidence encore en série. On les voit moins travailler seuls, en tout cas à mon avis.
Ben, les deux équipes ont fait la même chose. Tu parles de ton expression, je vais l'utiliser, le monstre à deux têtes. On a vraiment divisé les forces. On a réparti les forces sur les deux premiers trios. Puis on les replace ensemble à des moments opportuns. Ça fait que Marner puis Austin Matthews jouent pas ensemble. Même chose, McDavid avec Draisaitl. On essaie le plus possible de les séparer pour avoir une meilleure force de frappe. Fait que ça a un impact, c'est sûr. Puis moi, ce que j'ai trouvé, Écoute, Austin Matthews, là, la manière avec... moi, Max Domi, sur un premier trio, écoute, j'ai de la difficulté à me faire une tête avec ça, mais il joue bien depuis le début des séries.
Ben, j'allais là. Je te laisse aller, mais j'allais exactement là.
Tu sais, pour moi, là, Bertuzzi travaille fort. C'est pas un patineur exceptionnel. Donc, des fois, c'est Matthews qui est le premier joueur en échec avant.
Ouais.
Et c'est comme si, tout à coup, c'est le joueur vedette, c'est Domi.
Ben oui.
Tu comprends, sur le trio. Puis moi, ça, écoute, je me dis, ben voyons, je comprends là, que vous voulez avoir une contribution élargie, mais j'ai hâte de voir au moment où Nylander va être de retour dans la mêlée, comment on va insérer. Je pense que c'est le jeune Robertson qui va payer la note. Là. C'est lui qui est le moins expérimenté. Puis il joue sur le troisième trio. C'est probablement la pièce qui va bouger parce que sur le quatrième trio, on va laisser ça comme ça. Jusqu'à date, en tout cas, ça fonctionne assez bien, à moins qu'on se dise qu'on n'a pas besoin de Reeves, ce qui ne serait pas une surprise non plus. Là.
Non, mais tu sais, en même temps, Reeves fait un travail, disons, une mauvaise punition à un moment donné là, contre les Bruins, mais en tout cas, ouais. il va devant le but, puis il s'occupe de Pat Maroon. Tu sais, lui et Maroon entretiennent une belle relation, puis c'est le fun de les voir aller. C'est pas très utile, mais ils sont là. Mais je reviens à Domi. Moi, Danny, je pense que Domi et Jonathan Drouin, c'est pas le même genre de joueur, mais c'est le même combat. Ce sont des joueurs qui sont capables de beaucoup, mais en même temps, quand ils se perdent et que le succès arrive puis qu'ils ont un peu de la difficulté à le gérer, c'est là que les troubles commencent. Domi, s'il se campe dans le rôle qu'il a là avec Austin Matthews et que la direction des Maple Leafs lui signe un contrat d'un an à chaque année pour les 3-4 prochaines années, ça devrait bien aller. Tu sais, je sais pas si c'est le même enjeu pour Jonathan Drouin qui va finir son contrat avec l'Avalanche, mais moi j'ai toujours trouvé que ces deux-là avaient des parcours intéressants. Dès qu'ils se sont sentis confortables, les choses se sont mises à moins bien aller. Par contre, quand ils sont tous les deux en situation de précarité puis prouver ce qu'ils valent, c'est là qu'on voit le meilleur d'eux. Puis Domi, là, c'est peut-être le meilleur complément qu'on a trouvé à Matthews au cours des derniers mois et des dernières semaines.
Oui, écoute, il fait du bon travail. Là. Comme je te dis, moi, je le vois comme un joueur de talent, mais complémentaire.
Oui.
C'est un joueur qui patine bien, il a un bon tir, il a plusieurs qualités. T'sais, nous, c'est parce qu'on l'a pas vraiment apprécié comme individu ici. Là.
Non, puis il faut qu'il travaille, Danny.
Il faut pas mélanger les pommes et les oranges, mais là, dans le contexte actuel, il travaille fort, il est dans le jeu, mais c'est pas le premier. Moi, avec la vitesse qu'il a, je le verrais beaucoup plus comme premier gars en échec avant pour permettre à Austin Matthews d'avoir la rondelle plus souvent. Là, Austin Matthews va la chercher, la rondelle. Je te le dis, moi, c'est un joueur qui m'impressionne énormément parce que tout ce qu'il fait, puis honnêtement, je suis obligé de le dire, là, la combinaison, lui et Tavares, là, 1 et 2, là, où un en arrière de l'autre, c'est fatigant pour l'adversaire parce que c'est deux gros bonhommes qui s'impliquent dans le jeu. C'est des gars qui trichent pas. Ils ne font aucun compromis. Puis moi, je pense que ces deux gars-là sont au cœur du succès des Leafs actuellement. Là.
Par contre, Danny, c'est pas passé avec les Bruins de Boston pour les Maple Leafs. Ben. Tu sais, les Bruins de Boston savent aussi comment bien jouer au hockey. Ils ont aussi de la profondeur. Moi, j'aime beaucoup ce que les joueurs clés des Bruins sont capables de faire sur la patinoire quand c'est le temps de défendre, quand c'est le temps d'attaquer, quand c'est le temps de se commettre. Tu sais, les McAvoy et Marchand, puis même Pasternak, on l'a vu bloquer des lancers, Pasternak donner des mises en échec pour faire de l'obstruction un petit peu, puis favoriser ses coéquipiers. Ça, moi, j'aime beaucoup cet aspect-là chez les joueurs clés des Bruins. Puis, la fameuse histoire des deux gardiens, là. Puis je pense qu'il y a même des commentateurs, Danny, de nos collègues qui présentent les matchs à la télé, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, là, ils traitent avec un peu de désinvolture les décisions de l'entraîneur pour les deux gardiens. Mais il y en a deux bons, Danny. Pourquoi ils se priveraient de ça? Parce que probablement que l'année prochaine, ça sera plus le cas. On va être obligé de se départir de Hullmark. Mais il y en a deux bons en attendant. Alors, créer une situation comme ça, puis les Bruins n'en sortiront que gagnants?
Ben moi, j'ai je suis un peu à la même place que toi. J'ai pas trop de problèmes avec cette situation-là parce que ce qu'on a décidé de faire, c'est juste de maintenir ce qu'on faisait en saison.
Ben, c'est ça.
C'est drôle comment les gens regardent la situation des gardiens. On dirait qu'ils mettent un autre paire de lunettes. Tu sais, je veux dire, les deux gardiens ont joué toute l'année. Puis Ullmark, il était bon l'autre soir, même s'ils ont perdu. Là.
Il est moins technique que Swayman. Swayman est beaucoup plus solide techniquement. Il est plus rassurant quand tu le regardes. Mais Ullmark, il les arrête pareil.
Ouais. Puis, tu sais, c'est parce qu'il y a un gabarit différent aussi. Là. C'est deux joueurs qui ont des gabarits différents. L'autre, il est gros, là. Il prend de la place.
Oui.
Puis, tu sais, bon, eux égard à l'aspect technique, là. Tu regardes la situation. Écoute, c'est les Bruins de Boston, leur enjeu n'est pas devant le filet.
Ben non.
Martin, l'enjeu pour moi des Bruins de Boston, c'est d'être capable d'aller chercher de l'offensive de par la qualité de leur ligne de centre.
Ouais.
Ils ont des bons joueurs de centre pour bien jouer défensivement, mais c'est pas une équipe qui génère beaucoup d'attaques. Alors, eux, c'est vrai que le temps passé en territoire adverse, c'est le nerf de la guerre. L'autre soir, là, Toronto, là, ils ont passé plus de temps dans le territoire des Bruins, puis ils ont eu plus de tirs de l'enclave. Ils ont été bien meilleurs, pas un peu, ils ont été bien meilleurs que les Bruins de Boston l'autre soir, dans le match numéro 2.
Parce
ils ont travaillé très fort, puis ils ont amené la rondelle dans le territoire adverse.
Ouais.
Donc moi, tu sais, je suis curieux de voir comment on va peut-être essayer de jouer un petit peu avec les attaquants. On va peut-être vouloir changer un peu la dynamique à travers les quatre trios, parce que si tu regardes comme il faut, là, à part DeBrusk qui a marqué, qui a eu une soirée très... très fast là, au match numéro 1. Après ça, là, c'est pas gras. Là. Pour les buts, là, c'est pas gras. T'sais, t'as Pastrnak qui a un but. Puis, Beecher, des gars. Après ça, c'est des gars plus de soutien. Là. Les Frederick puis les Geeky.
Mais tu sais qu'à la date limite des échanges, les Bruins ont essayé d'améliorer leur sort. Les Bruins étaient dans le dossier Ganzo jusqu'à la toute fin.
On peut
alors, tu sais. Et puis ils ont été même dans le dossier Hanifin aussi, parce que Hanifin venait de Boston. Alors, on sait ce qui est arrivé. Hanifin finit avec Vegas et Gensel finit avec la Caroline. Alors, les Bruins auraient voulu aller chercher plus de buts pour, mais ils n'ont pas été en mesure de le faire. Puis, ils traînaient d'autres gars dans la Ligue nationale, Adam Henrick et compagnie, là, qui sont allés dans d'autres clubs, peut-être parce que les Bruins n'étaient pas prêts à payer le prix qu'il fallait payer pour avoir des joueurs d'un peu moins d'envergure par rapport, par exemple, à Gensel. On va voir si ça va les rattraper. Tu sais, des fois, Danny, puis je voulais t'amener là-dessus, avant de passer une petite pause, là, la magie qu'on parle en série, David contre Goliath, tu sais, on aime bien ça, voir ça, mais parfois, c'est la réalité rattrape. C'est-à-dire que des fois, David contre Goliath, ça va marcher, mais ça marche pas tout le temps, puis ça marche pas à tous les ans. Puis je regarde. Ben, je pense à deux clubs. Je pense aux Islanders, puis je pense aux Capitals. À chaque fois, depuis le début de ces deux séries-là, à chaque fois que le verre a failli renverser pour les deux favoris, soit les Rangers et la Caroline, il est toujours arrivé quelque chose. Ces deux équipes-là ont joué comme des équipes favorites. Ils ont provoqué le quelque chose qui anéantit un peu, qui fait reculer les deux autres équipes qu'on aurait pu identifier potentiellement comme équipe Cendrillon.
Ben oui, écoute, c'est... moi, ce que je trouve, là, c'est que on est confronté encore une fois à l'équilibre entre la défense et l'attaque. Les deux équipes à lesquelles tu fais référence, c'est deux équipes qui n'ont pas de punch en attaque, qui travaillent très fort pour avoir un certain succès défensivement.
Ouais.
Dans la Ligue, là, tu ne peux pas gagner en série si tu n'es pas capable de marquer des buts. Tu peux gagner un soir, là, mais tu ne gagneras pas de série. Là. C'est trop difficile. Il faut que tu sois capable de maintenir un certain niveau de production offensive. Puis moi, ce qui m'a fasciné l'autre soir, là, c'est vraiment... à quel point les Islanders ont complètement perdu leur repère. Ils sont placés en défense, là. Puis ils ont joué ses talons. Tu peux pas, tu gagnes pas de match comme ça dans la Ligue nationale aujourd'hui. Là, les remontées, il y en a en saison, puis ils vont en avoir en série. Ça, c'est clair. En jouer comme ça, c'est sûr que tu ouvres la porte à toutes sortes de problèmes.
Mais ils veulent par contre, puis cette équipe-là se donne, je veux dire, ils se donnent, je pense que Patrick Roy a ce vestiaire-là bien en main, mais à un moment donné, tu joues une meilleure équipe que la tienne, puis la magie arrive pas toujours, puis dans l'autre série, Danny, Ovechkin est toujours arrêté sur la glace. Il patine plus, il avance plus. Il y a eu un moment clé là dans le match, dans le match numéro 2 où les Capitals ont l'avantage numérique. Écoute, Andre Miller enlève carrément la rondelle à Ovechkin parce que Ovechkin est carrément immobile en avant du banc des punitions. Il avance plus, il attaque plus, il défend plus, il avance plus. Puis ça aussi, ça rattrape là, tu sais, Cendrillon là, c'est Cendrillon. Peut-être qu'elle sortira pas de sa, elle sortira pas de sa coquille à Washington.
Mais peut-être qu'il patine plus parce que comme Cendrillon, il a perdu un soulier.
Il a perdu un talon, il a perdu une lame. mais tu sais, puis en même temps, ça me fait de la peine d'être ironique envers Ovechkin. C'est tellement un grand joueur. Mais là, il faudrait qu'il soit tellement meilleur que ce qu'il est là pour amener son équipe à se battre au coude à coude avec les Rangers.
Ah non, c'est sûr. Mais écoute, il est pas très visible, on va dire ça comme ça, là. Je vais le dire comme ça. Tu sais, il n'y a pas de points depuis le début de la série en deux matchs. As-tu la chance de regarder un peu cette série-là? Comment tu as trouvé Hendrix Lapierre?
Ben, écoute, je trouve que Hendrix Lapierre va être un très bon joueur.
Ouais,
il va être un bon joueur. Je le regarde, là, puis il me rappelle beaucoup Philippe Dano. Je trouve que je le vois jouer, puis il y a des flashs de Philippe Dano quand je regarde. Ça va être un excellent joueur, intelligent et tout. Vraiment, on savait qu'il était pour être bon. Jusqu'à quel point, c'est difficile à dire encore là maintenant, mais j'adore ce que je vois d'Hendrix Lapierre.
Ouais, moi aussi, écoute, j'aime beaucoup son dynamisme, sa vitesse. Ils vont avoir besoin de ça, les Capitals, parce que c'est une équipe vieillissante, puis c'est une équipe lente. Alors, les jeunes... ça ressort, leur vitesse là, dans le jeu, ça ressort. Puis, toujours...
McMichael est solide aussi, Danny.
Oui, mais lui, il était déjà là. Lui était arrivé.
Oui, absolument.
Moi, j'avais pas de questionnement sur lui. C'était plus par rapport à Lapierre. Je me demandais si on voyait un peu les mêmes choses. Là, fait que...
Vois-tu un peu de Dano là-dedans, quand tu le regardes jouer?
Oui, c'est un mélange. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus de flair offensif que Philippe. Dans son jeu au départ. Là, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est un joueur qui essaie d'être très responsable. Ouais. C'est un gars très discipliné. Son explosion, sa vitesse, etc. Donc, pas assez vu pour me faire une tête puis le comparer avec des gars, mais ses qualités premières, c'est vraiment pour moi l'explosion puis le dynamisme dans son jeu.
Il y a une affaire qui peut sauver les Capitals de Washington, Danny, c'est que leur noyau de jeunes, là, dont fait partie Protas, dont fait partie Hendrix Lapierre, dont fait partie McMichael, à l'exclusion de McMichael, mais les autres jeunes, là, rappelle-toi que ce sont tous des gars qui ont gagné la Coupe Calder en 2023 avec le club école des Capitals de Washington. Puis là, gars-là arrivent... Il arrive avec un nouvel entraîneur en plus, là, tu sais, qui voit peut-être les affaires différemment. Puis ça, c'est ce qui pourrait sauver les Capitals à moyen terme, d'après moi.
Oui. Ben, tu as raison de parler du succès dans la Ligue américaine, là, surtout quand il y a des jeunes joueurs qui sont impliqués dans ce succès-là. C'est pas toujours un vecteur qui est une ligne droite puis qui marche pour tout le monde. Parce que des fois, tu gagnes dans la Ligue américaine, mais tu gagnes avec tes vieux. C'est pas vrai que ça se transpose dans la Ligue nationale. Mais
eux autres, l'année qu'ils ont gagné, Danny, ils ont gagné avec leurs jeunes joueurs.
Oui,
dont Lapierre, entre autres. Oui, effectivement. Danny, tu bouges pas.
Non, ben, je vais me faire un café, moi.
On s'arrête, puis le temps que tu fais ton café, on revient, puis on va aller dans l'autre conférence. Il y a aussi des choses qui nous sautent aux yeux depuis le début de ces séries-là, puis on va jaser avec vous autres. Danny, c'est bien moche, mais pour la Ligue nationale, ce qui retient un peu l'attention en première ronde des séries, outre ce qu'on a mentionné tantôt, l'émergence de quelques joueurs, la tenue intéressante de quelques joueurs vedettes, dont McDavid et Matthews. Ce que certains appellent carrément de la tricherie à Vegas prend le dessus. C'est en train, encore une fois, de placer la Ligue nationale par rapport à ses partisans en situation d'ironie. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas bon pour une Ligue. Quand tes partisans sont ironiques, ça atteint ta crédibilité. Puis l'histoire de Stone commence à jouer beaucoup dans la crédibilité. Puis je sais pas ce que tu en penses, là, mais l'autre soir, Stone est le joueur du match. Il est assis au banc, puis il fait une entrevue qui est présentée sur le diffuseur à la télé. Puis l'entrevue est présentée à l'aréna. Exactement ce que Marc Denis fait, entre autres, et Renaud Lavoie, lorsque nos diffuseurs québécois présentent les matchs au Centre Bell. Et là, Stone, il peut pas répondre à aucune question parce que c'est un concert de huées. Puis je veux bien croire que les partisans de Dallas n'étaient pas contents de la perdre. Mais ce que les partisans de Dallas huaient l'autre soir, Danny, c'est pas nécessairement Stone comme la Ligue nationale. Puis ça, c'est pas bon pour la crédibilité de la Ligue.
Mais non, puis ils sont coincés dans leurs affaires. Tu sais, ouais. Il y a des choses qu'ils ont mis en place qui les font mal paraître.
Ben, c'est sûr.
Je te rappelle des bris d'égalité, là. Tu sais, des fois, tu te dis... Bon, les bris d'égalité, avant, là, c'était pas compliqué, les bris d'égalité, là, c'était l'affiche entre les deux équipes.
Ben oui.
Là, avec les prolongations, on change une affaire, ce qui fait que les Capitals de Washington sont en série à cause d'un but d'un filet désert. Ils ont marqué un but d'un filet. Fait que là, tu te dis, écoute, à un moment donné, wow. Mais là, on est dans le même débat. C'est,
tu trouves parce que
tu peux gonfler ta masse salariale, ça compte plus en série. Ben. Il faudrait que ça compte en série. À un moment donné, là. Sinon, c'est n'importe quoi. Ça veut plus rien dire.
C'est bien simple à faire. C'est les Golden Knights, quand ils sont allés sur la patinoire pour leur premier match en série contre les Stars, avaient une masse salariale de près de 93 millions. Ça, c'est 10 millions de plus que ce qui a été permis cette année. Mm-hmm. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Alors que la masse salariale soit respectée en série versus la saison régulière, pas une scène de plus, c'est la solution. Mais on en a parlé déjà ensemble, Danny. Les propriétaires ne veulent pas rouvrir la convention collective parce que la période post-pandémie pour la Ligue nationale, financièrement, a été assez profitable. Pas spectaculairement profitable, mais assez profitable. Puis l'association des joueurs le sait. Alors, moi, il y a deux dirigeants qui m'ont confirmé ça coûterait cher ouvrir la convention pour négocier cette clause-là, parce que les joueurs vont vouloir négocier d'autres clauses. Alors, c'est plate, mais c'est encore juste de l'argent à la fin de la journée qui fait en sorte que les Golden Knights se faufilent.
Oui, mais attends, pense-y, là. Les directeurs généraux sont en train de regarder ça. Ils peuvent quand même pas chialer après ça. C'est eux autres qui l'ont voté.
Ben, c'est sûr.
Tu sais, eux autres, là, parce que ça, c'est vraiment un aménagement pour les transactions. Parce que si tu gardes la masse salariale où elle est, il n'y aura plus de mouvement de personnel. Tu n'auras plus de transactions. Ça arrivera plus.
Ben, tu vas en avoir, mais là, tu vas être vraiment forcé. Ça va être des transactions à trois clubs, Danny. T'sais, tu vas vraiment devoir être imaginatif pour quand tu vas vouloir un joueur, tu vas être obligé d'en sortir un autre puis de l'envoyer chez un tiers.
C'est ça.
Pour pouvoir aménager ça. C'est sûr que c'est compliqué à faire.
Ça va être pas mal plus compliqué. Il y en aura pratiquement plus parce que là, écoute, l'équipe qui veut se départir d'un salaire ou qui veut se faire de la place ou qui veut être transigé pour un joueur vedette,
oui.
Mais là, elle ne voudra pas prendre du salaire en tour. Fait que là, elle va prendre l'autre équipe. Je te le dis, là, les transactions à trois qui impliquent beaucoup d'argent, il va en avoir, c'est sûr. Il y en a toujours eu, il va continuer d'en avoir. Mais ça va être... Tu sais, tu ne pourras plus faire un...
Non.
Un show de 3 heures, de 6 heures à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, tu sais, ces différentes plateformes. Alors, il y a vraiment un enjeu majeur au niveau de la Ligue parce que toute cette période de transaction-là, au niveau marketing, c'est joué très, très fort.
Ouais.
Mais en bout de piste, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des situations qui sont complètement hors normes, qui permettent à des équipes d'avoir un avantage sportif qui est qui est indu. Tu sais, c'est pas, c'est... t'as pas de droit. C'est juste ça. C'est qu'à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu regardes les dernières formations qui ont gagné la Coupe Stanley et personne là, qui. On ne se fermera pas les yeux. Là.
C'est ben, t'aimes pas, affaire t'aimes pour pas Tampa Bay, là. Exactement. Tampa a été la première équipe vraiment à le faire. Puis là, Vegas applique la patente. La même affaire. Ouais. Sais-tu où est-ce qu'ils sont rendus, la Ligue nationale? Ils sont rendus à la croisée des chemins avec le système qu'ils ont entre les mains actuellement. Ils partagent les revenus entre propriétaires. Ça va très bien. Ça permet de faire survivre des marchés. Ça permet de tenir la Ligue dans une très bonne santé malgré tout. Malgré quelques canards boiteux, là, dont l'Arizona en était un. Puis là, ben, à Salt Lake City, ça va devenir une autre affaire. Mais la Ligue doit se poser la question suivante, Danny. Est-ce que le système économique pour lequel ils se sont battus il y a presque 20 ans maintenant, ce fameux lockout qui avait coûté une saison complète pour garder la ligne dure avec le plafond salarial, là, est-ce qu'ils veulent encore ça? Ou si, au contraire, ils veulent avoir plus de marge de manœuvre puis œuvrer comme le baseball? En fait, là, c'est est-ce qu'ils veulent se rapprocher du baseball maintenant que leur business va mieux? Ou s'il reste un peu dans la mentalité du football, où là, le partage des revenus, le talent qui se promène d'une équipe à l'autre, c'est très important, sont rendus à la croisée des chemins. Je vais loin, là, mais la décision qu'ils vont prendre avec ça va déterminer des 10 prochaines années dans la Ligue.
Ouais, ben moi, je trouve que tu vas loin. Parce que je trouve plutôt que le système économique mis en place permet d'établir une parité dans la Ligue. Alors ça,
ben c'est sûr.
Jusque-là, ça va. Les problèmes reliés au système en place, ce sont plus des problèmes de dommages collatéraux, d'effet cause à effet. Mm-hmm. Alors, ce qu'ils ont à faire, c'est vraiment des aménagements à propos de certaines facettes. Moi, je pense, exemple, dans l'association des joueurs, là, c'est correct d'avoir des clauses de non-mouvement jusqu'à ta dernière année. La dernière année de ton contrat, là, moi, je ne veux pas dire, commencer à avoir des clauses restrictives pour choisir ta place où tu vas aller finir l'année, là, ça ne devrait pas exister. Ça devrait tenir tout, mettons, tes 5 ans, tes 7 ans, tes 8 ans de contrat, mais la dernière année, l'année où tu deviens, mettons, disponible, parce que là, l'équipe est peut-être dans une... Là, il n'y a plus là, de clause. Tu vas où il t'échange, tu vas finir l'année, la dernière année de ton contrat, tu n'as plus de clause qui tient. Ça, c'est une première chose pour moi là, qu'ils doivent réévaluer parce que ça crée beaucoup trop de... À un moment donné, les joueurs veulent tout aller à la même place, là, voyons donc.
Ils veulent aller à Vegas.
Ben voyons, tu t'éloignes de la parité. Alors ça, c'est une première chose. Ça, parce que c'est contre-productif, ça va contre l'esprit de la parité. La deuxième affaire qui va contre l'esprit de la parité, c'est que tu sois capable de créer d'avoir du surplus salarial durant les séries. Alors là, comment ils vont faire? J'en sais trop rien, mais ils peuvent se donner un coussin puis établir un coussin puis dire le coussin, c'est ça. C'est pour garder le meilleur des deux mondes. Tu sais, Martin, le meilleur des deux mondes, c'est de continuer à faire les transactions. On le sait, là. On est dedans, nous autres. On le voit tous les jours, puis les gens aiment ça, puis on se fait parler constamment de ça. Fait qu'il faut pas enlever ça, là. C'est très important. Mais là, ça prendrait comme un deuxième plafond. Est-ce que le plafond, Martin, c'est 5 millions? J'en sais trop rien.
Ouais.
Si t'es à 83, tu tombes à 88, puis t'as pas le droit de dépasser 88, après, là, t'es mettre sur la glace. Là.
Mais tu trouves que je vais loin, là? Mais là, tu viens de décrire, puis tu viens d'expliquer exactement ce que je disais tout à l'heure. T'es arrivé à la croisée des chemins. Tu y vas avec ce que les Anglais pourraient appeler « hard cap », c'est-à-dire un plafond salarial agressif, restrictif, que tu peux pas contourner, ou tu y vas avec un soft cap, c'est-à-dire un plafond salarial que tu peux trouver des petites affaires de 5 % de 8 % puis tu joues ça dans le partage des revenus, puis là, oups, tu t'arranges une patente pour qu'on puisse un petit peu danser chaque côté de la ligne.
Ouais.
Moi, je te le dis, la Ligue nationale, elle est arrivée à la croisée des chemins avec ça. Où ils continuent avec la ligne dure NFL, où ils s'en vont vers un modèle qui ressemble un peu plus au baseball. C'est-à-dire, ben OK, on va valser un peu, puis on va permettre des années à une équipe. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la philosophie même de ce qu'ils ont payé un an de hockey pour mettre en place.
Je comprends, mais tu sais, moi, Martin, je suis pas du tout à la même place que toi parce que je trouve que ce qu'ils ont mis en place, la Ligue nationale, ça marche.
Oui.
Ça marche parce
que tu as des
marchés très petits, puis dans les marchés petits, il y a les marchés canadiens, pas tous des gros marchés, là, qui réussissent à faire leurs affaires à cause du système en place. Donc, moi, le système, il me va. Moi, mon problème, il est plus avec les séries. Alors, si tu as un cap, un hard cap, comme tu dis, séries éliminatoires, qui est, je te donne un chiffre parce que, bon, pour fin de discussion, qui est 5 millions. Tout le monde a le droit d'aller à 88, 89, mais tu n'as pas le droit d'aller plus que ça. Fait que là, après, là, puis là, ton alignement, comment tu joues ces affaires-là, bien là, il peut y avoir un paquet de règles qui te permettent de dire, bon, ben regarde, ton alignement, les joueurs que tu vas mettre sur la glace, tu n'as pas le droit de dépasser 85 millions, exemple. Tu peux l'avoir, le joueur, sur le banc, là, je veux dire, dans les gradins, là. Mais quand tu l'embarques dans ton alignement, bien là, Fait qu'en tout cas, il y a une réflexion à faire pour être créatif, mais pour moi, il ne faut pas que tu enlèves toute la question de transaction parce que ça fait partie, on va le dire comme ça, du folklore du hockey.
C'est sûr.
Puis ça leur appartient, puis c'est dans l'ADN de la Ligue. Alors, il faut trouver une façon de combiner tout ça.
Mais ça va heurter la philosophie pour laquelle ils se sont battus, puis on a hâte de voir comment tout ça va se terminer. On va s'arrêter pour quelques instants, puis on va poursuivre parce que on a passé beaucoup de temps à parler de Vegas, puis la petite tricherie administrative qui leur permet d'être bons. Mais on va aller ailleurs aussi parce que dans l'Ouest, il y a d'autres séries qui attirent notre attention. Restez là, on part pas loin. Danny, quand même, une série intéressante se déroule entre les Jets et l'Avalanche du Colorado. On est allé pas mal dans « à toi, à moi » là-dedans. Le premier match était une anomalie parce que 13 buts dans un match, c'est un peu invraisemblable. Ça peut arriver, les joueurs l'échappent, puis arrive ça. Puis à la fin, il y a une équipe qui est meilleure que l'autre ce soir-là, puis il gagne le match. Il s'est quand même marqué 7 buts dans l'autre match d'après, mais là, c'est l'Avalanche. C'est drôle, hein, parce que Connor Hellebuck et le gardien de but Georgiev, normalement, tu mets pas ça dans la même phrase, ces deux-là. Mais les deux premiers matchs de la série ont fait qu'un s'est rapproché de l'autre, malheureusement. C'est pour ça que c'est un petit peu imprévisible. Je commence par ça, puis je veux te parler d'un autre gars dans cette série-là.
OK, bien écoute, moi, je veux dire, il y a trois gardiens qui ont joué plus de 60 matchs dans la Ligue nationale cette année, puis il y en a deux qui s'affrontent dans cette série-là. Donc, Georgiev et Hellebuck.
Ouais.
Hellebuck est habitué de jouer 60 matchs par année, là. C'est une machine. Mais pas Georgiev. Donc, il y a beaucoup de pression mise sur l'attaque de l'Avalanche du Colorado en ce qui me concerne. C'est une équipe... Donc, il faut qu'elle marque des buts pour gagner. Parce que son gardien n'est pas à la hauteur, d'après moi. Là.
Non.
Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment que... Moi, je trouve qu'il faut que les Jets réussissent à refermer, resserrer le jeu. S'ils essaient de jouer au fin finaux, là, jouer du jeu offensif contre l'Avalanche du Colorado, ils vont se brûler, là. Ça, pour moi, c'est clair. Ça, c'est évident. Parce que la différence est dans la profondeur.
C'est sûr.
La profondeur au niveau des attaquants est vraiment meilleure pour moi du côté de Winnipeg. Mais si ces joueurs-là sont toujours... Si tu joues du hockey de rattrapage, comme l'autre soir, oublie ça, là. Ils ne seront pas dans le coup. Maintenant, écoute, Georgiev, c'est une boîte à surprises. Et moi, je pense que si le match est serré, le gars qui a le plus d'expérience en série va tirer son épingle du jeu un peu mieux. Et je parle bien sûr de Hellebuck.
Et Danny, dans cette série-là, c'est sûr que tu mets les deux joueurs sur la table, MacKinnon, Scheifele, tu prends MacKinnon les yeux fermés. Là, même un spécialiste en curling qui n'a jamais vu un match de hockey de sa vie, probablement qu'après un demi-match, il choisirait MacKinnon. Mon point, c'est pas ça. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire avec Mark Scheifele. Je sais que c'est pas ton préféré, mais tabarouette qui joue du gros hockey, puis il a joué du gros hockey toute la saison. Puis il continue en série. Je le mettrai pas au niveau des MacKinnon puis des Matthews. Il est pas là, mais il joue du très gros hockey.
Oui, Son trio est très solide. Velarde leur donne du très bon hockey, puis le retour en force de Kyle Connor également, parce que, tu sais, Scheifele, c'est un... On va se le dire, là, c'est un très, très bon joueur de hockey. Il n'y a pas de... Ouais. Moi, c'est plus sur l'individu là, que j'ai mes réserves, mais ça, c'est un autre dossier complètement. Aujourd'hui, si on regarde le joueur de hockey puis le premier trio des Jets, le premier trio des Jets, c'est un trio qui est vraiment extrêmement solide puis qui n'a rien à envier à personne. Leur problème, les Jets, ça va être d'obtenir quelque chose de Monahan. Si Monahan n'est pas très présent, là,
pas à date encore.
Non. Et son trio n'a pas produit, là. C'est comme... Tu es là, tu dis, ouais. C'est, ce trio-là, c'est le deuxième trio offensif de l'équipe. C'est la profondeur de l'équipe. Ils ont 0 points en 2 matchs. Puis ils sont dans le négatif. Fait que eux autres, ils doivent trouver une façon d'être au milieu de la danse. Là, parce que là, ils sont sur les lignes de côté puis ils regardent ça aller, pour l'instant, en tout cas.
Moi, je vais te dire, il y a une place. Il faut que les Jets maximisent. Puis je vais prendre le terme « sauver leur saison », parce que leur saison sur la glace a été exceptionnelle. Mm-hmm. Mais il faut que les séries pour les Jets deviennent un autre point de ralliement pour le marché de Winnipeg, parce que c'est pas vrai que la Ligue nationale va endurer les Jets pendant 15 ans à 12-13 000 personnes dans leur amphithéâtre, qui à 15 000 doit être plein tout le temps, pour avoir un succès financier digne de ce nom. Alors, c'est pour ça, Danny, que les séries sont très importantes. Il faut que les Jets passent la première ronde pour que on recrée, là, pour que les gens soient prêts à faire n'importe quoi pour acheter un billet des Jets puis aller voir leur équipe favorite. Parce que sans ça, ça va faire mal aux Jets, puis on sait jamais ce qui peut arriver après.
Ben écoute, je te trouve alarmiste là, parce qu'il y en a plusieurs marchés où il y en a du 10-12 000 par match.
Oui,
États-Unis, puis en masse. Il y a des marchés pas mal pires que celui de Winnipeg en ce qui me concerne personnellement. Là.
La petite cloche de Annie, c'est pas moi qui l'a sonné, c'est leur président.
Ouais, ben pour eux, là, c'est sûr qu'eux autres, ils disent « Hey, on a une équipe gagnante, il faudrait que l'aréna soit à pleine capacité. » Ça, je peux comprendre ça. Mais je pense pas que c'est un enjeu pour la Ligue nationale, Martin. Je pense que c'est un enjeu local là, pour les propriétaires de l'équipe qui se pose la question, coudon, la voulez-vous, votre équipe? On est bon, là. Fait que c'est le temps de nous encourager. Ça, c'est sûr. Là-dessus, à 100%. Mais quoi qu'il en soit, il affronte une équipe qui a moins de profondeur, mais son le noyau dur de cette formation-là est tellement... C'est tellement un bon noyau.
Ouais.
Puis même le retour de Nichushkin, tu vois là, que c'est une équipe qui a une force de frappe. Puis il y a une force de frappe qui est évidente. Et donc, pour les Jets, puis là, ça reste très personnel. Là, moi, je pense que c'est Sean Monahan. C'est le trio de Monahan qui doit leur donner beaucoup plus que ce qu'il leur donne actuellement. Parce que s'ils ne sont pas capables d'obtenir plus, ça va être les bons contre les bons. Puis les bons contre les bons, je vais choisir ceux du Colorado,
comme tu disais
tantôt.
Ça, c'est évident. Vivement le retour en force du trio de Monahan pour que les gens s'arrachent les billets à Winnipeg le plus longtemps possible. Danny, on prend 2 secondes pour saluer nos partenaires et amis de Remax qui sont avec nous pour Bon Match. On vous remercie du soutien parce que ces éléments-là, ces balados, ce qu'on vous présente, le podcast Bon Match, c'est rendu possible grâce à l'implication de gens professionnels de chez Remax, puis on est très fiers de les avoir avec nous à bord cette année.
Oui, je suis content de l'association, professionnalisme, de faire les choses pour les bonnes raisons, donc de s'occuper de leurs clients, de faire ce qu'il faut faire pour satisfaire justement ces clients-là. Ben nous, on s'associe vivement à ce genre de compagnie.
Alors, merci encore, Remax. En conclusion, Danny, les Sabres de Buffalo ont changé d'entraîneur. Je pense que dans le cas de Granato, on avait presque prévu son congédiement depuis après les fêtes, à peu près, là, quand on a vu que les Sabres, il leur manquerait encore du terrain pour aller accéder aux séries de fin de saison cette année, puis que ça progressait pas nécessairement de façon attendue. Ça, c'est correct. Ça, c'est une chose. Mais de ramener Lindy Ruff qui a perdu son emploi dans le dernier droit au New Jersey parce qu'on a dit « c'est peut-être plus l'entraîneur avec les jeunes joueurs qu'on a dans notre équipe, il semble y avoir un clash ». peut-être générationnel, mais un clash au niveau de la communication. Puis tu sais que nous autres à Montréal, on regarde Martin Saint-Louis, puis c'est ça que je disais en début d'épisode, tu sais, on voit ce que le Canadien est en train de bâtir, on voit ce que d'autres équipes ont bâti avec des John Cooper de ce monde. Puis je veux pas porter de jugement envers Lindy Ruff, mais là les Sabres reviennent avec Lindy Ruff, puis je me suis demandé si c'était pas une affaire de hey, lui là nous a amené de la magie dans les années 2000 là, on le ramène. Je me suis demandé si on est juste allé comme ça là sur le seuil de la porte de la réflexion.
Ben, c'est que à un moment donné les gens c'est des relations humaines, c'est le niveau de confiance. Tu sais Lindy Ruff là, il connaît tout le monde à Buffalo.
Ben, il a jamais déménagé Danny hein.
Non.
Il est toujours l'été, il reste à Buffalo.
Exact, tu fais bien de le mentionner. Mais moi, je te rajoute là-dessus qu'il côtoie ces gens-là au quotidien puis ça se parle régulièrement. Donc,
oui.
Lui, là, il est au fait. Il sait. Il connaît la réalité. Il sait ce qui se passe. Donc, est-ce qu'il est en mesure de se vendre indirectement en parlant avec ces gens-là sur une base régulière? Probablement.
Ouais.
L'autre affaire, c'est tu l'as touché, puis on en a parlé hier parce qu'on prépare toujours nos affaires un peu d'avance.
On essaye quand même, hein?
Oui, c'est ça. Puis on se disait, ben écoute, les Sabres de Buffalo, la dernière fois qu'ils ont participé aux séries, c'est lui qui était derrière le banc. Donc,
oui.
Peut-être qu'on pense qu'il y a de la magie. On pense que, oui, 13 ans. 13 ans plus tard, on le ramène. Mais tu sais, les Flyers de Philadelphie ont engagé Tortorella, ils pensent à la même affaire, là.
La magie.
Puis, c'est un gars dans la soixantaine avec la même petite recette, les mêmes patentes, qui brasse la même soupe. Puis, il y a encore une job. Tu sais, puis je dis ça avec tout le respect au monde. Là, ça reste un entraîneur de la Ligue nationale qui a gagné la Coupe Stanley, tout ça. Pourquoi on n'a pas attendu? Parce qu'on s'est dit, c'est le gars que ça nous prend. Parce qu'il y en a d'autres, là. Il va en avoir des joueurs, des entraîneurs de disponibles au repêchage, puis après le repêchage.
Oui, parce qu'après la première ronde des séries, Danny, ça ne veut pas dire qu'il y a des équipes éliminées là-dedans qui décideront pas d'aller dans d'autres directions derrière le banc.
Oui, puis il y a des entraîneurs adjoints de très haut niveau.
Ben oui.
Qui peuvent devenir disponibles. Mais non, on a décidé tout de suite d'aller. Ben oui.
Je vais t'amener ça sur une autre perspective, complètement.
OK.
Dans les dernières semaines, il y a des médias très sérieux qui suivent les activités des Sabres, puis qui suivent aussi les activités des Bills de Buffalo. Fait que c'est pour ça que je dis que ce sont des médias très sérieux à Buffalo, qui avancent que Terrence Pegula, le propriétaire de toutes ces équipes-là à Buffalo, Monsieur Pegula est propriétaire des Sabres, des Bills, pour qui il est en train de construire un stade flambant neuf de l'autre côté de la rue du vieux stade. Son équipe est toujours prête, tout prêt d'aller à un Super Bowl à un moment donné ou à un autre. Les Bills, c'est un produit encore hot. Il est propriétaire de l'équipe de cross à Buffalo. Il détient toutes les équipes sportives. Mais là-bas à Buffalo, ce qu'on raconte, c'est que Monsieur Pegula, maintenant, écouterait des offres si quelqu'un arrivait puis disait Monsieur Terrence, est-ce que les Sabres sont à vendre? Parce qu'on a laissé filer cette nouvelle-là, puis oups, peut-être que les Sabres seraient à vendre. Peut-être que Monsieur Pegula disait, ben moi je me contenterais peut-être d'une équipe, puis je vendrais les deux autres, soit l'équipe de cross, puis l'équipe ou l'équipe de hockey ou les deux. Puis là, on voit Lindy Ruff arriver tout à coup. L'ancien entraîneur qui a amené la magie à Buffalo puis qui a rentré l'équipe en série. Je sais pas si je fais un lien tordu, là, mais quand tu dis que Ruff est en contact avec tout ce monde-là, moi, je pense que Ruff est en contact aussi avec le propriétaire de l'équipe.
Ah, peut-être. Peut-être. Martin, ça, c'est un bon point. J'en sais trop rien, mais c'est possible. C'est possible. Parce que, écoute, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas une équipe riche. Puis c'est sûr que Lindy Ruff, pour rester dans la Ligue nationale, il ne demandera pas une fortune.
Là. Non, puis surtout être à la maison, là, Danny.
Ouais,
être à la
maison. Puis c'est très bien que c'est sa dernière chance. Là, parce que là,
ben oui.
À un moment donné, ben, il sait très bien. Il s'imagine, il doit ouais. anticiper qu'à un moment donné, on est pas mal au bout du rouleau de ruban gommé. Là. On est sur le bord du carton, là. On arrive. Là. C'est à la fin. Fait que là, lui, il a une chance avec une équipe jeune, talentueuse,
qui a quand même fait des
progrès défensivement. L'année passée, ils avaient accordé plus de 300 buts, comme le Canadien. Mais ils produisaient offensivement. Là, on leur a demandé de jouer mieux défensivement, Mais là, tout à coup, ils ont perdu leur repère offensif. Alors, l'équilibre, à créer l'équilibre entre les deux, c'est ça qui est le plus difficile. Parce que si tu es trop restrictif, bien là, les joueurs, ils arrêtent de jouer. Ils jouent défensif, puis ils ne se produisent plus offensivement.
Ouais, parce
et,
que...
et les Sabres, écoute, là, c'est... On va dire, honnêtement, c'est pas bien, bien mieux que le Canadien offensivement.
Non, non.
Puis pourtant, c'est une équipe bien meilleure.
Avec un potentiel, puis l'équilibre meilleur.
Oui, puis je le dis pour les gens, là, tu sais, juste donner le chiffre, parce que c'est quand même pas grand-chose, là. Le Canadien a marqué 232 buts, et les Sabres en ont marqué 244. Alors, c'est pas... La différence n'est pas énorme, là. T'sais, mais le Canadien, eux, c'est un autre débat, là, mais les unités spéciales, le jeu défensif s'est amélioré, mais ils ne marquent pas de but. Fait que, sont toujours dans le même combat. Là, où ils étaient moins 75 l'année passée ou quelque chose comme ça, là, sont moins 50.
Ça progresse pas.
Pas assez.
T'sais, à Buffalo, ça progresse pas assez. Puis tu sais, Danny, c'est moche être propriétaire d'une équipe qui rate les séries pendant 13 ans.
C'est sûr que ça aussi, là, à un moment donné, c'est... l'ego, hein.
Mais oui. Tu sais, quand ton autre club, là, quand ton autre club flirte avec une participation au Super Bowl, puis que ton équipe de hockey rate les séries pendant 13 ans, c'est sûr que ça doit t'ébranler un petit peu.
Oui. Oui. Tu dois pas aimer ça quand tu vas au dépanneur.
Alors, Lindy Ruff doit ramener la magie à Buffalo. Là-dessus, voilà. On va mettre un terme à ce 21e épisode de Bon Match. J'espère que ça vous a plu. Il y aura 5 autres épisodes d'ici la fin des séries Stanley, Danny. On va jaser de tout ce qui nous intéresse, puisqu'on espère, bien sûr, intéresse les gens à travers les séries. Alors, merci d'être là. Merci également à Pierre Gervais, notre précieux collaborateur pour la réalisation du balado. Merci, Danny. Salut, puis à la prochaine.
Salut, Martin. Salut, Pierre.
Au revoir, tout le monde. Bon match!